Après l'Assemblée nationale, le Sénat procède les 11, 12 et 13 mai à la deuxième lecture de la proposition de loi sur la fin de vie, Isabelle Duché.
Oui, le 25 février dernier, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture la proposition de loi relative à l'aide à mourir. Le 29 avril, donc la semaine dernière, la Commission des affaires sociales du Sénat a validé, en seconde lecture également, le principe de l'euthanasie et du suicide assisté, tout en renommant le dispositif assistance et non pas aide, assistance médicale à mourir et en restreignant l'accès à des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme. Il est des questions de morale que l'on doit se poser afin d'éclairer les consciences et c'est le propos de mon invité ce matin, le frère Édouard d'Ivry, dominicain, maître en philosophie et docteur en théologie. Bonjour frère Édouard.
Bonjour à tous.
Vous êtes l'auteur de « La morale bouge encore » aux éditions Teki. Alors c'est vrai que cette disposition votée par l'Assemblée nationale, elle concerne d'abord les médecins. Ils devront être volontaires pour participer à l'aide à mourir. Et le Sénat ajoute que le médecin sollicité pour administrer le produit létal doit être celui qui a suivi le patient. En quoi cet acte, frère Édouard d'Ivry, vient-il à l'encontre du serment d'Hippocrate ?
Le serment d'Hippocrate est vieux comme le monde. Pour exercer la médecine, le médecin dit « Je promets, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité » et il précise « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément ». Et c'est ce qu'ont promis tous nos médecins. Et donc leur faire passer de la situation de ce serment d'Hippocrate à une autorisation à aider à mourir quelqu'un, c'est extrêmement grave, surtout que cela est présenté comme un soin, oui. Alors que c'est tuer. Et l'Écriture est très nette, « Tu ne commettras pas de meurtre », c'est répété même deux fois dans l'Écriture, Exode chapitre 20, Deutéronome chapitre 5. Et donc on brise vraiment quelque chose qui fait l'unité d'un pays, l'unité d'une nation, l'unité d'une civilisation. Et là, ceux qui la font quelque chose de terriblement grave.
D'autant plus que dans une dernière interview, il y a 15 jours, deux médecins faisaient part de l'opposition majoritaire hein, de ces médecins pour cette aide à mourir que je mets toujours entre guillemets. Et on imagine aussi aisément que l'administration du produit létal va briser le rapport de confiance entre le soignant et le patient. Comment pourrait-on le rétablir dans ces cas-là, frère Édouard d'Ivry ?
Alors c'est vrai que si tous les patients demandent à leur médecin « Est-ce que vous tenez encore au serment d'Hippocrate ?», ça les aidera à leur donner de la force, de la conviction, parce qu'ils verront que l'immense majorité des patients veulent que leur médecin soit fidèle à ce serment d'Hippocrate, car sinon la médecine par la mort, c'est la mort de la médecine. C'est ce que disait le professeur Lejeune, mort actuellement, on le pense, sur la voie de la béatification. Et pour nous, c'est important, il disait que cette loi qu'il sentait venir, parce que c'était déjà dans le projet de Pierre Simon, qu'on allait arriver à l'euthanasie. Et il écrivait N-A-Z-I pour bien comprendre qu'on retrouvait les vieilles lois du régime nazi, Action T4, qui a voulu supprimer tous les handicapés. Alors on nous dit, oui, mais là, on ira librement à la mort, mais on sait très bien comment, avec les pressions des lobbies, les pressions des médias, les pressions des laboratoires, eh bien, on peut tout à fait transformer quelqu'un hésitant en quelqu'un de volontaire pour quelque chose. Et hélas, le baby-boom qui est historique, qui est d'après-guerre, va vite se transformer en papy-boom pour aller à la morgue.
Oui, et vous dites que finalement, le choix ne sera pas libre.
Mais le choix ne sera jamais libre parce qu'on n'aura pas fait goûter aux personnes qui sont susceptibles, effectivement, d'être proches de la mort, aux soins palliatifs. Les soins palliatifs auraient dû être développés très largement depuis les lois Leonetti et autres, et on ne l'a pas fait. Et du coup, tous ceux qui ont goûté à ces lois de soins palliatifs ont tous refusé après de vouloir être euthanasiés. Ouais. C'est ça qui est très net. Et tous les médecins qui ont pratiqué ces soins palliatifs disent le bien que cela fait. On soulage maintenant toute souffrance. Toutes les souffrances sont soulagées. Donc c'est faux de dire on va vous soulager de votre souffrance, etc. On le soulage déjà. Et donc forcer quelqu'un à mourir par une sorte de cocktail lithique. C'est horrible, surtout avec tous les rejets qui peuvent advenir, ça peut faire des morts tout à fait horribles. Mmh. Et on ne le dit pas assez aux patients. Ils n'auront qu'une semaine pour connaître le contenu de ce qu'on va leur administrer, les risques qu'ils prennent en le faisant. Alors que dans tous les autres pays, il y a au moins 15 jours, voire plusieurs semaines, pour qu'une longue explication soit donnée aux patients.
Oui.
C'est un rouleau compresseur, ce n'est pas un boulevard de la mort que mettent les députés, c'est vraiment une autoroute de la tuerie.
Une autoroute de la tuerie. En quoi cette loi sur l'aide à mourir vient bousculer la morale ?
Alors, la morale, c'est tu ne tueras pas, c'est un devoir qui est au-dessus de tous les droits. Et vous savez combien Léon XIII, le pape Léon XIV s'inspire souvent de Léon XIII, a rappelé que les devoirs ne prennent leur sens qu'à partir des... Les droits ne prennent leur sens qu'à partir de leurs devoirs. Les devoirs sont toujours premiers. Et Gandhi ou bien d'autres ont répété exactement la même chose. Les devoirs sont en amont des droits. Et avoir inventé un faux droit, c'est tout à fait redoutable. Parce que dans le fond, nous avons tous, c'est le droit à la vie. Et le devoir qui est en amont, c'est de ne pas tuer. Ne pas tuer, c'est la base de notre société et ce serait la détruire. Ce sera la détruire si cette loi est mise en application, empêchant en plus l'objection de conscience, car on est obligé dans cette loi, pour un médecin, de donner le nom d'un confrère qui pratique l'euthanasie. Et donc, il sera nécessairement, il deviendra un complice de cet acte, un complice indirect, certes, mais c'est très grave parce que ça rend la société complice d'un meurtre généralisé.
Mmh, oui, avec un lien finalement entre tous les médecins, les même
médecins,
ceux qui ne le pratiquent pas.
Même ceux qui ne le pratiquent pas, seront obligés de passer à la casserole, si vous voulez, puisqu'ils seront obligés de donner un nom de quelqu'un qui le pratique. Et sinon, il y aura entrave. Ils ont inventé la même idée que l'entrave, délit d'entrave comme pour l'avortement. Finalement, il y a une complicité dans ces lois mortifères, cette civilisation de la mort dont parlait Jean-Paul II, qui commence à se mettre en place de plus en plus et qui, malheureusement, nous scandalise.
Mmh. La Commission des affaires sociales du Sénat a renommé le dispositif en assistance médicale à mourir plutôt qu'un droit, justement, à l'aide à mourir choisi par les députés. Le fait, justement, de ne plus appeler ça un droit, vous parliez à l'instant, frère Édouard Divry, de ces devoirs qui doivent prééminer au droit. Selon vous, en quoi ces deux expressions, droit à l'aide à mourir ou assistance médicale à mourir, sont-elles biaisées ?
Eh bien, justement, parce qu'on ne dit plus exactement les choses en face, comme lorsque IVG, on disait interruption volontaire de grossesse au lieu de dire avortement, et qu'il faudrait appeler, comme disait le professeur Lejeune, interruption de personnes gênantes, de vie gênante, IVG. Et malheureusement, c'est ça auquel on assiste, c'est-à-dire une généralisation de cette ouverture à la mort, et qu'il faudrait donc pénaliser, à mon avis, d'une manière chrétienne, pour tous les catholiques qui seraient embarqués dans la Chambre des députés ou dans la Chambre sénatoriale, par un moyen très simple de ce que les patients peuvent déjà faire, écrire à leur médecin et à leur évêché, de demander à l'officialité un procès qui permettrait de déclarer quelqu'un donc excommunié, ferendé sententiae, c'est-à-dire par une sentence très nette que l'on peut porter contre quelqu'un qui est complice. Nécessaire, alors le mot nécessaire, il faut bien préciser, c'est-à-dire qu'il a mis la main dans la pâte d'une manière nécessaire pour que cette mort advienne. Il a vraiment été acteur, si vous voulez. Et quelqu'un qui signe une loi comme ça est un acteur nécessaire. Sans sa signature, la loi pourrait ne pas passer et il pourrait ne pas être complice nécessaire à ces morts qui se présagent. Donc il faudrait absolument intervenir au niveau des catholiques qui malheureusement peuvent être pris par les lobbies, par la solidarité interdéputés, intersénateurs, oui, et se laisser
ou
prendre.
Ou la peur aussi. Hein,
la peur des autres, tout à fait. Et cette censure pourrait être posée d'une manière tout à fait nette. Une excommunication, c'est une peine médicinale qui est bonne pour la personne parce qu'elle est exclue de toute relation avec l'Église catholique au niveau des sacrements, au niveau de la vie, et cela lui permet un sursaut en disant mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je suis devenu, je suis devenu un paria de l'Église, je suis devenu un apostat, et donc il faut réveiller les consciences, je pense, en faisant des actes très fermes, très forts pour aider les personnes qui sont prises dans cet enchaînement. C'est un véritable enchaînement des libertés.
Mmh. Oui, parce que, en fait, les députés ont adopté ce texte instaurant le droit à l'aide à mourir à 73 voix. En commission des affaires sociales, donc au Sénat, les sénateurs ont apporté des restrictions, mais finalement, ils entérinent quand même néanmoins la possibilité pour les soignants de donner la mort par euthanasie ou par suicide assisté. Donc finalement, ces députés, ces sénateurs, vous dites aujourd'hui, frère Edouard Ivry, qui sont complices nécessaires et qu'il faudrait que toutes les personnes qui désapprouvent cette loi et puis cette action, ce vote des députés et des sénateurs, puissent écrire à leur évêque pour demander que ces députés, oui, ces sénateurs soient excommuniés. C'est bien
tout
ça
à
que
fait
vous dites ce matin.
À leur officialité. Il y a des tribunaux dans l'Église et qui est catholique relève d'un tribunal. Donc, à partir du moment où la personne s'affiche catholique, c'est évident qu'elle doit être conforme. On ne peut pas être, si vous voulez, schizophrène. On ne peut pas affirmer d'une
part
catholique du dimanche et puis en semaine, on passe à l'Assemblée, on vote une loi de mort. Donc c'est complètement incohérent avec le message évangélique. La loi naturelle et évangélique est donnée dans un même mot par le Concile Vatican II. Il l'appelle la loi naturelle et évangélique. On ne peut pas les opposer. La nature est là, donnée déjà par le Créateur pour que la grâce vienne ainsi l'investir. Et je ne peux en rien opposer donc cette loi naturelle qui impose de ne pas tuer avec la grâce. Je perds la grâce dès que je suis contre la nature.
Voilà, donc finalement, la conséquence de cette excommunication des députés et sénateurs catholiques qui voteraient cette loi, finalement, ils seraient donc contre la loi naturelle.
Contre la loi naturelle, mmh, exactement, et de par le fait même, aussi contre la loi évangélique, qui est la conséquence du fait que notre Seigneur Jésus, dans les évangiles, n'a cessé de rappeler la continuité entre l'alliance du Sinaï et la Nouvelle Alliance. Mmh. Nous ne sommes absolument pas dans une situation de rupture par rapport à cette alliance du Sinaï.
Et ces personnes qui seraient excommuniées, comment pourraient-elles retrouver la communion dans l'Église ?
Eh bien, en s'amendant, en déclarant publiquement qu'elles regrettent profondément l'acte qu'elles ont posé sous pression par manque d'éclairage, par manque de liberté. En particulier, souvent, on fait croire aux députés que tuer quelqu'un, c'est l'aider d'une certaine manière à être dans la compassion, et Saint Jean-Paul II disait que l'euthanasie relève d'une fausse pitié, plus encore une inquiétante perversion de la pitié, vous voyez, parce que
mauvaise image de la
mauvaise vérité même
mauvaise
de la
vérité,
pitié,
oui.
Voyez, et quelqu'un souffre, je te tue comme ça tu ne souffres plus, mais c'est affolant, c'est complètement contraire au bon sens. On aide quelqu'un. On ne le tue pas parce qu'il souffre.
Alors, je signale donc cette suggestion que vous faites et cette demande instante que vous faites, frère Edouard Ivry, donc d'écrire à l'officialité de diocèse respectif de chacun. Et puis, il y a aussi cette pétition, l'un n'exclut pas l'autre, déposée sur
au
le site de l'Assemblée,
oui,
nationale, qui est valable jusqu'au 19 juin, pétition.assemblée-nationale.fr, avec des signatures pour lesquelles il faut atteindre le chiffre de 100 000 pour qu'elle soit valable. Merci beaucoup. Frère Edouard Ivry, je rappelle donc que vous êtes dominicain, maître en philosophie et docteur en théologie. Vous êtes l'auteur de La morale bouge encore avec Monseigneur Battu aux éditions Pierre Tchéquy. Merci infiniment.